une chanson, une histoire avec Irit Azoulay, bien sûr. Bonjour Irit.
Bonjour.
Comment ça va bien?
Ça va très très bien et toi?
Ben super bien, je suis ravi de te vous retrouver.
Ah oui, de nous retrouver, nous sommes ravis de nous retrouver.
Ben, tant mieux, bonne année aussi, Shana Tova.
Shana Tova, pour la énième fois.
On avait fait une chanson spéciale, une chanson, une histoire à l'occasion de
Rosh Hashanah. Bien sûr, Alcool Elle.
Et aujourd'hui, eh bien, pour la première fois depuis maintenant 26, enfin ça va être le 26e podcast, celui-ci.
Exact.
Eh bien, pour la première fois, on a eu 25 chansons en hébreu et
israéliennes. Ça aussi, c'est en hébreu, mais...
Et cette fois, vous allez nous parler d'une chanson qui n'est pas originellement israélienne et qui parle de ce fameux ruban jaune qu'on brandit en guise, ou qu'on porte plutôt, en guise d'appel à la libération des otages.
Eh oui, ben parce qu'à chaque fois que je vais en Israël, depuis plus d'un an, vous le savez bien, je suis impressionnée par ces milliers de rubans jaunes qui sont accrochés aux branches des arbres, ainsi que sur les voitures, les fenêtres et partout, partout, on les voit. Ils existent aussi, comme vous le dites, sous forme de pins qu'on accroche à nos vestes. Mais comme beaucoup d'entre vous, j'étais intriguée par l'origine de ce symbole. Et beaucoup de gens m'ont posé la question. Alors, j'ai commencé à mener mon enquête et j'ai découvert des choses très intéressantes. Alors, des dizaines de chansons ont été écrites depuis le 7 octobre, mais je cherchais une chanson qui parle justement du ruban jaune, sauf que celle-ci, qui est très peu connue, est la seule qui parle du ruban jaune d'une manière claire. Elle s'intitule « Haseret Hatzahov », et ça veut dire « le ruban jaune », mais même si elle n'est pas très, peu, très connue, parce que justement, c'est une adaptation d'une chanson américaine, c'est Yoel Rippel qui l'a écrite en décembre 2023 et elle est interprétée en duo par Ruchama Raz, chanteuse très connue des années 80, et Ariel Dimant qui débute sa carrière et qui a une très belle voix, vous allez voir. Ce n'est pas vraiment une traduction, comme je disais, mais c'est quand même l'adaptation de « Tie a yellow ribbon around the old oak tree » dont on va parler un peu plus tard.
Bien, ben alors je vous propose qu'on écoute un extrait de cette version hébraïque dont vous nous parlez qui s'intitule Haseret Hatzahov.
Haseret Hatzahov.
Rappelle quelque chose, je ne sais pas quoi, je vais mener ma propre enquête, je vous raconterai
oui,
quand
vous
j'aurai...
Vous pensez que c'est autre chose que « Tie a yellow ribbon around the old oak tree », mais bon, pour moi c'est ça.
On verra, je vais essayer de trouver quand même, mais pour revenir à ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce ruban jaune. Je sais que le pin jaune est utilisé dans différents pays pour sensibiliser des gens à différentes causes, notamment le cancer des os ou encore la prévention du suicide, mais ma question est la suivante, Irit, comment est-ce qu'il est devenu le symbole pour la libération des otages?
Eh ben, ça, c'est une histoire incroyable. Donc apparemment, le ruban jaune, c'est le tout premier à avoir été considéré comme un objet signifiant dans l'histoire de tous ces rubans. Mais c'est en s'inspirant de celui-ci que les défenseurs des droits des patients du sida créent le ruban jaune, rouge. Le ruban rouge en 1991. Ensuite viendra le ruban rose que tout le monde connaît pour le cancer du sein, etc. Donc il y a des rubans de toutes sortes de couleurs, mais le tout premier c'était le jaune. Et ce jaune est devenu un symbole polyvalent qui représente la lutte contre plusieurs maladies et autres combats. Par exemple, j'ai une collègue espagnole catholique qui vient régulièrement nous soutenir lors des manifestations contre l'antisémitisme. Au début, elle était étonnée de voir les gens avec ce pins jaune, car en Espagne, c'est l'insigne des séparatistes catalans. Mais ensuite, elle s'est mise à porter ce pins lors des événements de soutien à Israël. Je trouve cela bien plus admirable du fait qu'elle est barcelonaise et contre le séparatisme dans son pays. Alors je profite de cette occasion pour saluer Marga et la remercier pour son soutien sans relâche. Ceci dit, aux États-Unis, le ruban jaune est associé à ceux qui attendent le retour d'un amoureux, mais surtout des soldats partis en guerre. Avec le temps, le ruban jaune est devenu le symbole d'identification avec les prisonniers de guerre et les otages. Ce symbole a été repris dans d'autres pays occidentaux, notamment en Israël depuis la prise des otages en 1985, puis Gilad Shalit, etc., et ainsi qu'en Ukraine depuis l'invasion militaire russe. En gros, ce ruban jaune nous vient surtout des États-Unis. Mais en remontant la piste, j'ai découvert que l'origine du ruban jaune, tenez-vous bien Didier, nous amène bien plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à l'époque romaine.
Ah oui, quand même.
Eh oui, figurez-vous que les Romains avaient coutume d'attacher un ruban jaune autour d'un arbre pour signifier qu'ils languissent et qu'ils attendent le retour de leur amoureux ou amoureuse partie au loin. Au 1er siècle déjà, l'épouse de Néron fait construire une villa à Oplontis, près de Naples, que vous pouvez encore visiter, qui porte son nom, Villa Poppée. Dans le caldarium de cette villa, il y a une fresque qui représente un arbre avec un ruban jaune noué autour de lui et un homme nu qui enlace l'arbre. Vous pouvez trouver la photo sur Internet, mais il faut bien zoomer.
Bah oui, ça c'est clair. Et ceci dit, lorsqu'on accroche le pin jaune sur notre poitrine, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, bien sûr, avec l'étoile jaune imposée aux Juifs par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un petit peu ambivalent.
En effet. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Notre mémoire est encore très vive en ce qui concerne la Shoah vécue par nos parents et grands-parents dans les années 40. Mais saviez-vous que cet insigne jaune n'est pas une invention des nazis ? Déjà au Moyen Âge, lors du 4e concile de Latran, le pape Innocent III impose aux Juifs de porter un signe vestimentaire distinctif afin d'instaurer une discrimination et ségrégation forcée.
Ah ben, c'est pas si innocent que ça, alors.
Ah non. Ça, je crois qu'il n'y a aucun pape qui peut se dire innocent. Il s'agissait d'un bout de tissu, à l'époque, découpé en forme d'un anneau de couleur jaune, qu'on appelait la rouelle. Avez-vous déjà entendu parler de la rouelle ?
Pas du tout.
Alors, la rouelle, selon l'interprétation chrétienne, faisait référence aux 30 deniers que Judas aurait obtenus pour dénoncer Jésus, ou encore à l'hostie que les Juifs refusaient de consommer. Selon les pays, divers signes de disgrâce furent imposés aux Juifs. Par exemple, en Allemagne du XIVe, on choisit un chapeau conique jaune, dit « der Judenhut », ou en latin « pileus cornutus », ce qui signifie « le bonnet à cornes ». D'où probablement l'origine du chapeau de sorcière pointu. La rouelle ainsi que le Judenhut furent portés par les Juifs pendant 6 siècles et attiraient sur leur passage la dérision et les coups. Mais ces marques distinctives n'étaient pas tout à fait une invention chrétienne non plus. Elles remontent encore plus loin, à l'an 637, lorsque les musulmans conquièrent Jérusalem, le calife Omar II ordonne aux Juifs de porter des vêtements différents, notamment une ceinture ou une frange jaune. Voilà, c'est le plus loin que j'ai pu trouver à ce sujet.
C'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà pas mal. Tout a commencé donc avec les Romains et l'ère chrétienne. C'est pourquoi dans l'inconscient collectif de notre peuple, la couleur jaune est associée aux persécutions de gens innocents juste parce qu'ils étaient juifs. En d'autres mots, parce qu'ils refusaient de se convertir au christianisme ou à l'islam et on dirait que depuis lors, on nous en veut d'être restés juifs.
Et oui, et ce que vous dites, ça me rappelle quand même ce geste, on peut appeler ça comme ça, un geste fort de Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, qui a décidé d'accrocher une étoile jaune sur sa poitrine après son discours au Conseil de sécurité.
Absolument, tout à fait. C'était une scène poignante qui s'est déroulée le 30 octobre 2023, plus ou moins 3 semaines après ce qui s'est passé, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en session d'urgence dans le contexte des bombardements israéliens de Gaza. Une majorité des États membres vote alors pour une trêve humanitaire à Gaza, sans même réclamer la libération des otages détenus par le Hamas, ni d'imposer leur visite par la Croix-Rouge. L'ambassadeur israélien Gilad Erdan accuse le Conseil de sécurité de l'ONU de rester silencieux lorsque des atrocités sont commises contre des civils juifs innocents, mais de s'insurger dès qu'Israël riposte pour libérer ses citoyens qui ont été brutalisés, violés et kidnappés. À la fin de son discours, la délégation israélienne et son ambassadeur se lèvent et placent tous une étoile jaune sur leur veste. Puis ce dernier annonce « Nous porterons cette étoile jaune jusqu'à ce que vous condamniez officiellement les atrocités du Hamas commis le 7 octobre et que vous exigiez du Hamas de libérer immédiatement tous nos otages. »
Et à mon avis, ils ne l'ont pas porté que deux minutes. Hein. Ah oui.
Eh oui, round her neck, she wore a yellow ribbon. Autour du cou, elle portait un foulard jaune. Cette chanson est l'hymne officiel de la cavalerie et des blindés des États-Unis depuis au moins 4 siècles. Elle est toujours utilisée par l'armée américaine encore aujourd'hui, sous différentes versions, pour maintenir la cadence de marche. La version qu'on vient d'entendre date de 1949, illustrant le film western de John Ford avec John Wayne, pour ceux qui s'en souviennent, qui parlait de la guerre de sécession. Donc pendant cette guerre civile américaine au 19e siècle, la couleur jaune était déjà l'emblème de la cavalerie de l'armée américaine du Nord, portée sous forme de bandana autour du cou. Ces bandanas jaunes auraient été importés en Amérique par les colons anglais. En fait, cet usage viendrait des militaires puritains anglais qui portaient des foulards de couleur jaune, notamment durant la guerre civile anglaise du XVIIe siècle. Cette distinction était très importante car elle permettait aux soldats de se reconnaître entre eux sur le champ de bataille et surtout de se différencier des forces royalistes anglaises qui, elles, portaient du rouge et du bleu.
Ça y est, je sais ce que ça me rappelle maintenant. Ça... Il y avait une chanson à l'Eurovision, c'était pas la même, mais Brotherhood of Man. C'était, ils ont gagné l'Eurovision d'ailleurs avec cette chanson et c'était exactement la même mélodie ou à peu de choses près. À mon avis,
on
aurait pu payer des royalties.
On verra
mais ça
bien.
Sentait bon cette musique-là qu'on vient d'écouter. Elle sent bon l'Eurovision, hein, quelque part.
Eh bien, ça ne l'était pas. C'était en 1973, mais pas de l'Eurovision. C'est vrai que le rythme ressemble un peu, mais c'est pour ça qu'on reconnaît mal la chanson hébraïque qui, elle, est en fait une adaptation hébraïque de cette chanson-ci.
Le titre me revient. Écoutez-le chez vous, amis auditrices, c'est heure. Et vous aussi, Rita, écoutez Kisses for Me.
Ah, Kisses for Me. Eh
ben, ça ressemble.
You, Kisses for Me.
Ben, da, da,
da. Bye bye, baby. Bye bye. Oui, je m'en souviens. Oui, le rythme, c'est vrai. Le rythme ressemble. Vous avez raison. Mais ça n'a rien à voir ici. Ici, on parle maintenant de la guerre du Vietnam en 1973. Le parolier et compositeur Larry Russell Brown tombe sur un article intitulé Going Home. Après lecture, un frisson lui parcourt le cou et il se dit « My God, ça ferait une superbe chanson, ça !» Et voici l'article, l'histoire que l'article raconte. C'est vrai que c'est une chouette histoire. Ça raconte qu'une bande de jeunes ados partent en vacances en 1973 de New York vers les plages de Floride en autobus, très long voyage, dans lequel se trouvait un homme nommé Vingo. La route était bien sûr très très longue et les jeunes observaient cet homme qui restait assis, immobile pendant des heures. Une des jeunes filles, curieuse, entame la conversation avec cet homme et elle apprend qu'il vient de sortir de prison. Vingo venait de passer 3 ans dans une prison de New York et lorsqu'il a su que la libération conditionnelle allait lui être accordée, il a écrit une lettre à son épouse dans laquelle il disait « Si tu as un nouveau mec, je le comprendrai. » et je ne viendrai pas te déranger dans ta nouvelle vie. Mais si tu es prête à me reprendre, accroche un ruban jaune autour du vieux chêne situé à l'entrée de notre village. « Waouh !» dit la fille qui entend ça, et elle va le raconter à tous ses amis qui font circuler le bruit dans tout l'autobus. Et en s'approchant du village, tous les passagers se collent aux fenêtres pour guetter le vieux chêne. Et à ce moment-là, Vingo, lui, ferme les yeux et cache son visage dans ses bras, n'ayant pas le courage de regarder l'arbre, de crainte qu'il n'y ait pas de ruban jaune. Puis, soudain, tous les passagers du bus sautent de joie et hurlent d'exaltation. Vingo ouvre les yeux et voit une centaine de rubans jaunes accrochés sur le vieux chêne.
Il avait 100 épouses.
Mais oui, c'est une belle histoire. Et c'est, ça qui, c'est cette histoire-là qui a inspiré la chanson qu'on vient d'entendre, Tie a Yellow Ribbon. Et si vous écoutez les paroles, vous comprendrez. Et bien que cela n'ait pas été dit explicitement, vu que la chanson est sortie en 1973, cette chanson était clairement un appel au retour des prisonniers de guerre du Vietnam. Puis, en 1980, cette chanson gagne de nouveau en popularité en raison de 52 civils et diplomates américains retenus en otage à Téhéran pendant 444 jours après que les manifestants du nouveau régime islamiste iranien aient pris d'assaut l'ambassade des États-Unis. Puis, suite aux attentats du 11 septembre 2001, dont on se souvient bien, des rubans jaunes seront de nouveau accrochés aux États-Unis sur les portes des maisons, sur les arbres des jardins, des familles dont les fils combattaient en Irak. Mais aussi en Israël, à chaque prise d'otage, et malheureusement il y en a eu, les gens accrochaient des rubans jaunes autour des arbres et sur les pancartes portant les noms des soldats kidnappés. Donc, le slogan original accompagnant ce ruban était « Support our troops, bring them home alive ». Soutenez nos troupes, ramenez-les à la maison sains et saufs. Et en ce qui concerne les otages israéliens kidnappés à Gaza, on scande « Bring them home now ».
Eh oui, et la boucle est bouclée, hein, si j'ose dire. Merci, Irit, de nous avoir, comme cela, donné à la fois une leçon de musique, mais aussi et surtout une leçon d'histoire. Ça fait du bien. On va terminer ce Une chanson, une histoire avec l'adaptation israélienne de cette chanson. On l'écoutait en début de chronique.
Oui.
Et cette fois-ci, on va l'écouter in extenso, comme on dit, en bon romain, enfin en latin, pour le coup. Et donc, je vous propose qu'on se sépare avec cela.
Merci, Didier.
Merci à vous, Irit.
כשתשוב ממרחקים יגע מאובק חמור פנים ותתקרב לשביל שמול הבית הישן אז תביט אל העלון שבקצה הגן את הסרט הצהוב סביב האלון אקשור כאשר תחזור כאשר תחזור זה האות שלא הפסקתי לאהוב אהיה איתך לטוב ולרע אמוני נשמור ומה שאבקש בלב שרק פשוט תחזור חולפים ימים של חרדה מתי תשוב הביתה לא אדע הגעגוע את הלב בלי הרף מנפץ רק רוצה לרוץ לקשור את הסרט סביב העץ הסרט שלי